Chemin faisant.
À la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Regard croisé sur des résidences de recherche et création dans 6 parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Chemin.
En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Musicienne, écrivain, écrivaine,
mais aussi sociologue,
danseur et danseuse, chercheur en sciences sociales.
Chemin faisant.
12 radios dans 6 parcs vont à la rencontre de leur travail.
Bienvenue sur donc, le plateau du Vercors qui compose donc, un élément de ces 6 résidences. Chemin faisant avec donc 3 radios hein, qui ont suivi pour la partie médiation ces différents projets pour la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes des radios FM non commerciales. Et pour ce qui concerne le Vercors, 3 radios sont concernées avec Radio Divoix, incarnée par Yves, juste à mes côtés.
Bonjour.
Bonjour Yves. Radio Saint-Ferréol pour la partie technique. Merci à Romain, un grand bonjour. Et puis naturellement Radio Royan, Vercors. Avec aussi la présence de Rachel qui œuvre à Radio Royan Vercors, et puis également moi, Patrice, et tous nos invités. Merci à celles et ceux qui ont eu la grande aimabilité de venir à Vassieux. On a un beau temps qui nous accompagne aujourd'hui, c'est fort agréable et qui facilite les choses pour rejoindre le musée de la préhistoire, à qui on apporte un grand merci, à Didier Lalande qui nous a reçus avec beaucoup de confort et de convivialité. Chemin faisant donc à la découverte des parcs naturels régionaux, des différentes résidences qui s'y sont opérées depuis quelques années. Peut-être une synthèse avant de retrouver ce qui fait acte de restitution à travers un podcast qui a été confectionné par Anthony Péqueux, de faire déjà un tour de table pour découvrir eh bien, qui va œuvrer durant cette heure pour cette restitution, puis un certain ressenti aussi des actions qui ont pris place au sein du parc naturel régional du Vercors. Eh bien, on commence tout d'abord avec vous, Marie-Odile.
Donc, Marie-Odile Baudrier, moi je suis vice-présidente chargée de la culture, de l'éducation et de la participation citoyenne au parc du Vercors.
À vos côtés aussi pour vous prêter main forte, hein, si je veux dire, pour des aspects techniques.
Eh bien, bonjour, Jamilia Bazoge, moi je suis responsable du service éducation, culture et participation citoyenne du parc du Vercors.
Également à cette table, merci aussi à vous, Anthony Péqueux, qui avait fait un grand déplacement pour nous rejoindre.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, un grand plaisir d'être là. Et moi, je suis sociologue, je suis chercheur au CNRS, au centre Max Weber, qui est un laboratoire à Lyon. Voilà, un grand plaisir de se retrouver ici.
Après quelques temps aussi de résidence, on le verra plus en détail. Et juste en face de vous, Anthony, un artiste qui a participé aussi bien activement à ces projets.
Donc moi je m'appelle Emmanuel Rousseau, je suis musicien et j'ai participé à un projet en coordination avec les parcs qui s'appelait Chemin à ciel ouvert. Voilà, pour lequel on a produit un disque vinyle.
On a d'ailleurs toute une déclinaison, hein, chemin faisant, chemin à ciel ouvert, balade à ciel ouvert. On essaiera de préciser tout cela au cours de cette émission. À noter que les prises de parole sur ce plateau s'alterneront avec des extraits d'interviews ou de captations effectuées durant le déroulement des projets ou plus récemment aussi en termes de ressenti des actions. On vous propose pour ouvrir cet espace chemin faisant un podcast réalisé durant donc la résidence bilan de Anthony Péqueux et de Marianne Villers. Mais pour l'heure, juste peut-être un petit rappel chronologique très synthétique entre 2019, qui fut le lancement des opérations des projets artistiques scientifiques sur le parc, jusque maintenant. On peut dire que ça fait presque partie aussi aujourd'hui de cette restitution et du projet dans sa globalité.
Oui, donc effectivement, tout un travail de plusieurs résidences à hauteur de 4 qui s'est mis en place depuis 2019 sur le territoire, itinérant sur le territoire et justement qui interrogeait les cheminements, les nouvelles formes d'itinérance artistique sur les territoires et qui a donné lieu à une première résidence en 2019, accompagnée par l'artiste plasticien Dimitri Vazinski et la chercheuse anthropologue Chiara Kirchner, donc autour du site de Combe-Laval, autour d'une découverte de ce territoire, de recherche sur les parcours et usages de ce lieu qui est aujourd'hui un espace naturel sensible. En 2021, le territoire a accueilli le chorégraphe et danseur Franck Micheletti et l'anthropologue Chiara Piai, qui sont allés explorer un site autour de l'itinéraire de randonnée pédestre du Fil de la Bourne, plutôt au niveau du cirque de Bourguignon, en invitant des habitants, acteurs du territoire, à regarder différemment le territoire en usant de leur sens et notamment de leur rapport au corps dans cet environnement. Cette deuxième résidence s'est poursuivie, comme le disait Emmanuel Rousseau, par un travail de création avec ses compétences et ses qualités artistiques et celles de l'artiste Maria Rossi autour de ce dispositif qui s'est appelé « Chemin à ciel ouvert » avec la création d'enregistrements sonores, compositions à partir des sons de la nature. Et puis, pour clore cette série de résidences, ce sont les deux artistes Anthony Péqueux et Marianne Villers qui sont venus sur le territoire avec leurs appareils de prise de son et leurs regards scientifiques pour pouvoir compiler un certain nombre de prises de son, prises de regard, de recul sur ces travaux qui a abouti sur la création de podcasts appelés Podcasts sur place, qui ont été également réalisés sur d'autres territoires, puisque cet ensemble de résidences ne s'est pas fait uniquement dans le Vercors, mais sur quatre autres parcs également.
On retrouvera d'ailleurs, côté juste après le podcast, le côté assez singulier de faire une restitution par le son. Anthony, vous voulez bien, juste en quelques mots, présenter, peut-être donner une introduction au podcast avant qu'on le diffuse ?
Oui, ben à la suite de ce que disait à l'instant Jamila, il y avait donc pour nous, vis-à-vis de la DRAC et vis-à-vis des différents parcs, un enjeu donc de revisiter en quelque sorte hein, les lieux qui avaient été arpentés par les différentes résidences de recherche-création qui nous avaient précédés. Il y en avait eu trois, hein, dont une qui n'était pas passée par le Vercors, mais qui était quand même passée par les autres parcs. Il y avait six parcs en tout. Donc voilà, un enjeu de revisite et puis en même temps de création d'une nouvelle recherche-création. Donc avec Marianne Villière, avec qui j'avais déjà eu l'occasion et le plaisir de travailler auparavant, on a essayé de mixer, de mélanger nos disciplines sociologie, approche artistique, de les mixer le plus possible pour arriver à un résultat qui soit véritablement, en tout cas ce qu'on a essayé, une recherche-création et qui soit dans l'indistinction un petit peu entre ces éléments-là et qui effectivement, vous allez l'entendre dans quelques instants avec l'épisode consacré au Vercors, à Saint-Julien-en-Vercors, qui mixe des descriptions factuelles, on reconnaît en quelque sorte Saint-Julien, qui mixe des éléments qu'on va apporter, par exemple la lecture d'un article de la revue de Géographie Alpine, un article un petit peu ancien qu'on a été déterré, qui mixe également des éléments plus fictifs qui vont venir s'insérer et qui vont venir apporter un autre regard, quelque chose de non réel, et voilà, on a essayé de que ce soit un tout, et maintenant ça va être aux oreilles des auditeurs d'y être confrontés et d'y reconnaître ou pas un tout.
Sans plus tarder, donc Point d'eau, le 12 juillet 2022, à Saint-Julien-en-Vercors, podcast Horaspitalité, hein, c'est son intitulé, c'est ce qui fait le lien entre tout ce que vous avez fait sur les parcs régionaux.
C'est ça, avec une problématique donc générale autour de l'hospitalité, de ces places qu'on a, sur lesquelles on s'est arrêté, et dans la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes.
Point d'eau, Saint-Julien-en-Vercors, parc naturel régional du Vercors. 12 juillet 2022, 913 mètres d'altitude, temps caniculaire, 14 heures. À l'arrivée dans ce village rue, un jeune cycliste s'asperge d'eau à la fontaine qui borde la route et organise autour d'elle une petite place. Il demande la direction de Lens, la direction d'une boulangerie. Trois motos viennent faire une pause devant le café en face de la fontaine. Le temps pour eux de laisser passer deux voitures et de se coordonner moteur allumé à l'ombre du café et de repartir une fois la décision prise. Depuis l'église, un coup de cloche clair, distinct, seul, juste le temps de son propre écho. De part et d'autre de ce coup de cloche, la fontaine s'écoule et ne s'arrête que quand un moteur vient la recouvrir. Un écoulement régulier, rythmé de la fontaine, qui par contre disparaît au moindre événement, comme si la fontaine était invisibilisée, plutôt insonorisée.
La fontaine est un octogone composé de deux robinets qui figurent une route parallèle à la départementale. L'un des robinets dirigé vers Saint-Martin-en-Vercors, l'autre vers Villard-de-Lans. 1876, dit une gravure au-dessus d'un robinet. Eau potable, dit une planchette de bois sur le côté. Un second octogone lui fournit une sorte de margelle qui la sépare du village, un seuil d'entrée. Des pots de fleurs de couleurs vives, violet et orange d'un côté, jaune et rose de l'autre, garnissent les entours des robinets. Au sol, côté Saint-Martin, un rectangle de peinture blanche avec croix interdit tout usage sur le double de sa surface, place à un éventuel camion de pompier. Cela affirme son importance et souligne ce qu'on peut ou non faire avec elle, ce qu'elle autorise ou interdit. Les véhicules font le tour de l'église de l'autre côté de la route. On ne fait pas le tour de la fontaine comme on fait le tour de l'église. La fontaine est centrale, mais maintient ses distances. Elle ne programme qu'un usage interne, se renouveler continuellement, et un usage externe, boire, se servir. Les guêpes, les abeilles l'ont bien compris et se sont donné le mot. L'eau est potable, il faut en profiter. Et les fleurs autour permettent de butiner entre deux lampées. Seuls autres acteurs de cette place au milieu du village-rue, l'ombre et le petit vent qui l'accompagnent. Un portail qui s'ouvre en un son de lourd élan métal, une poule au loin, quelques rares oiseaux, comme si la sieste s'allongeait, laissant toute la place à la fontaine.
Nous quittons cette place Point d'eau pour prendre un sentier vers Moulin Marquis, une source d'eau dans une grotte. Le cours d'eau a un tracé d'une trentaine de mètres avant de se jeter en cascade à travers une falaise de près de 450 mètres pour rejoindre le Bournillon, son cirque et les gorges de la Bourne. Sur place, nous nous postons au pied de la chute d'eau avant de revenir vers la source. Les motos vrombissent dans les gorges de la Bourne, au loin, tout en bas. Ces motos, sporadiques malgré la saison, sont les seuls à signaler que l'espace derrière les arbres est une vertigineuse et immense ouverture, visuelle, sonore. Une famille, les deux parents, une fille d'environ 8 ans et un chien, donc une famille, est là, de l'autre côté de la source. La petite fille déplace des grands morceaux de bois. Les parents sont assis tranquillement. Le chien circule gaiement entre les membres de la famille.
La remontée vers la source fait éprouver, à chacun des 30 mètres ou presque, une différence d'ambiance, vers plus de frais, plus d'ombre, plus de mousse, moins d'écoulement et moins de bruit. Aussi, vers moins de morceaux de bois et plus de cairns qui sont innombrables dans la grotte. À une dizaine de mètres de la source, l'écoulement de l'eau est un peu plus heurté, comme arrêté par de fourmillants cailloux verts de mousse. Toutes les couleurs sont présentes ici en mode nuancier. Nuancier de vert et marron de la végétation, mais aussi, dès qu'on lève la tête ou change de focale, nuancier de blanc, gris, beige de la pierre, nuancier d'un ciel pur de juillet, dont le bleu ne se laisse deviner que quand on met la tête complètement à l'envers, sans compter les odeurs, mélange de vase douce et de terre humide. Nous reprenons le chemin en direction de Saint-Julien-en-Vercors et en profitons pour relire le compte-rendu établi par Jean Loup dans la revue de géographie alpine numéro 57 du congrès sur l'hydrologie karstique du Vercors qui s'est tenu à Grenoble, à l'Institut d'Olomieux, le 16 novembre 1968. Les problèmes du bilan de l'eau ont été abordés par plusieurs conférenciers, et d'abord celui des précipitations au Vercors. Le nord et l'ouest sont très arrosés, le sud les moins. Les pluies augmentent-elles avec l'altitude ? Monsieur Guyot a suggéré que l'altitude ne pouvait être qu'un facteur apparent de la pluviométrie. Cette prise de position a suscité un débat assez vif qui n'a pas abouti à une conclusion.
Sur ce chemin du retour, nous découvrons des cairns qui indiquent sans doute le village. Nous comprenons au fur et à mesure que ce n'est pas tant le village qu'ils indiquent, mais l'office du tourisme. Suite de la lecture et conclusion bilan du colloque. En somme, le Vercors est un massif troué de cavités et de galeries, comme un gigantesque emmental, pour reprendre l'expression du doyen Moret. Mais c'est un karst doté d'un faible pouvoir de rétention. Le rôle des nappes, ne se manifestent que pendant les pénuries. Et il est probable qu'elles sont alimentées principalement par la fonte des neiges et subsidiairement par les grosses averses, les petites pluies étant sans effet notable. Ce colloque sur le karst du Vercors n'a certes pas résolu tous les problèmes. Il a apporté quelques solutions et il en a fait entrevoir d'autres.
La lecture se suspend au profit d'une observation plus minutieuse des cairns qui font office de poteaux indicateurs. Car il ne s'agit plus d'un amoncellement de pierres, auxquelles les marcheurs et marcheuses pouvaient ajouter au sommet une pierre plus petite à leur passage. Ici, désormais, les cairns sont fixés d'une seule pièce en plastique recyclé. Il paraît qu'ils brillent la nuit lorsqu'on passe à proximité. C'est ce que promet du moins le petit logo d'ampoule allumée apposé sur chacun. Après l'office du tourisme, les cairns nous ramènent sur la place Point d'eau. Nous nous installons au bord, sur des sortes de plots face à face, chacun d'un côté, pour observer l'espace depuis des perspectives différentes. Au centre de ce losange d'attention, au centre de la place, on peut voir les fondations d'une fontaine. Un distributeur d'ombre et d'eau y a été installé. Il semble assez récent, neuf même. Le bitume autour a l'air frais, ou plutôt chaud, avec son noir intense et cette odeur caractéristique de bitume liquéfié.
La soif, du coup, a une odeur de soleil et de goudron. Le distributeur ressemble à une pompe à essence avec un tuyau. Pour disposer du pistolet, il faut activer un code disponible à l'Office du tourisme. C'est aussi le cas pour obtenir de l'ombre pendant une certaine durée. Un temps limité, mais la possibilité de choisir sa nuance d'ombre et de quoi modifier l'ambiance lumineuse et la température sur place. Parce que les arbres poussent trop lentement, surtout avec les températures folles de ces derniers étés, parce que les problèmes de l'hydrologie karstique du Vercors n'ont pas encore tous été résolus, les municipalités s'équipent de plus en plus de ce genre de dispositif.
Clic, clic, eau ou ombre. Sur place, l'été, se servir et partir refait.
C'était Point d'eau par Antoine Pequeux, qui fait donc office de petite pastille sonore bilan restitution pour les projets du Parc du Vercors chemin faisant. Une petite réaction à chaud juste avant d'aborder le côté que Yves va présenter en ce qui concerne l'aspect un peu fusionnel artistique et scientifique. On était dans votre commune, Marie-Odile. Il semblerait qu'il y ait un aspect assez, on peut dire, un petit peu décalé. Hein. C'est, après l'écoute, on se demande au début si c'est un peu du lard ou du cochon. Et puis finalement, on s'aperçoit que Anthony s'est quand même bien amusé à donner de la fiction dans tout ça.
Oui, oui, il y a une. Quand on écoute ce podcast, au début, on retrouve une ambiance réelle de Saint-Julien-Vercors, l'été, quand il fait chaud. Et puis, petit à petit, on va vers la fraîcheur, vers ce qui est la cascade de Moulin-Marquis, que beaucoup de touristes et puis d'habitants du Vercors connaissent, un lieu de fraîcheur, très agréable. Où il y a une résurgence, voilà, où il y a toujours de l'eau, même en été, voilà, quand il fait très chaud, très sec. Et puis c'est vrai qu'on est ensuite, moi personnellement, quand j'ai entendu ce podcast, j'ai pas compris qu'est-ce que c'était ces poteaux en plastique, recyclés, cet office de tourisme à Saint-Julien-Vercors que je ne connais pas. Donc là, on a basculé dans quelque chose qui n'est plus du réel, qui est de la fiction. Nous, le parc du Vercors, nous sommes beaucoup de choses, mais en particulier, nous sommes un lieu d'expérimentation. Donc, on a expérimenté là une sorte de, peut-être, moi j'appelle ça dystopie. Voilà, c'est assez amusant et ça interpelle.
C'est un petit peu décalé, effectivement. Mmh. On se rend bien compte que le parc du Vercors n'a pas forcément les mêmes optiques des fois du tourisme où ça clignote. C'est donc un petit côté un petit peu poil à gratter pour le parc du Vercors, la fin du scénario. Dire aussi que bien il y a différentes approches dans ces combinaisons hein, qui ont maillé ces quatre années de résidence. Nous allons voir ça avec Yves.
Anthony Péqueux, vous êtes chercheur et sociologue au sein du CNRS. Quelle est pour vous votre implication au sein de cette organisation avec ce partenariat et le Vercors pour cette restitution? Quel est l'intérêt du CNRS peut-être dans cette démarche?
Alors, c'est une collaboration déjà depuis plusieurs années avec la conseillère à l'ethnologie, notamment Marina Choliac, hein, conseillère à l'ethnologie de la DRAC, direction régionale des affaires culturelles, donc en Rhône-Alpes, à Lyon, qui est ethnologue et avec qui je travaille depuis des années, que je retrouve encore demain sur un autre colloque à Lyon sur le sonore. Et donc, c'est une collaboration qui fait que on s'est retrouvé. Enfin, elle m'a contacté pour réaliser cette résidence qui serait un peu une résidence bilan entre guillemets. Bilan des trois résidences qui avaient précédé dans les différents parcs, hein, ce que je disais tout à l'heure, et donc l'envie de répondre à cette demande de Marina Choliac, avec aussi l'envie de travailler et de faire avec Marianne Villière, avec qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler, et d'avoir cette fois-ci la possibilité de faire une recherche création en commun tous les deux. Et donc ça, on tenait beaucoup à avoir cette part de bilan, mais aussi avoir cette part de créativité et de recherche, de quelque chose de nouveau, de pas se contenter de revenir sur ce qui a été fait, mais aussi de proposer quelque chose, hein, qui mixe nos différentes disciplines, nos regards, et qui en même temps mixer, voilà, essayer de prendre au sérieux, c'est-à-dire le mélange, là où ce n'est pas Marianne qui apporte du fictif et moi qui apporterai des descriptions du réel, en quelque sorte, mais de prendre au sérieux, avec Marianne qui a fait beaucoup de lectures sociologiques, moi qui ai expérimenté des formes d'écriture que je n'expérimente pas dans ma pratique professionnelle. On a essayé de prendre ça le plus au sérieux possible, d'avoir une problématique commune sur les six parcs et d'essayer de décliner ça un petit peu localement, quoi.
On peut préciser, Marianne Villière, artiste dans quel registre?
Alors Marianne, elle a plusieurs registres. Elle fait pas mal de performances. Elle a créé par exemple des files d'attente. Elle a d'autres registres qui sont plus plastiques. Donc elle a une artiste contemporaine avec une multitude de registres, comme on peut la voir. Notre précédente collaboration était une intervention dans l'espace public aussi. On a cette problématique commune, parce que moi j'ai surtout fait de la sociologie et de l'ethnologie urbaine, donc on a cette problématique aussi de l'espace public urbain. On a beaucoup travaillé ensemble aussi sur ces notions-là. Donc on a vu en tout cas l'intérêt de revenir sur ces résidences qui avaient une problématique commune, les résidences qui ont précédé, qui étaient chemin faisant, chemin à ciel ouvert. En tout cas, il y avait une volonté d'aller notamment du côté des parcs sur les différents chemins et chemins de randonnée. Et nous, on a vu aussi l'intérêt de prendre au sérieux cette problématique du cheminement pour la contourner, en quelque sorte, faire un petit pas de côté pour aller du côté, on a appelé notre création sur place. Nous, on s'est arrêté. Là où les autres cheminaient, nous, on s'est arrêté un petit peu à la croisée des chemins sur les différentes places dans les six parcs qui pouvaient être des places assez caractéristiques, déjà des résidences où étaient passés les artistes et les chercheurs précédents, qui étaient des places qui étaient véritablement à la croisée de différents chemins de randonnée qui pouvaient donc accueillir. Et c'est là où cette question de l'hospitalité était également centrale, des places qui pouvaient accueillir les différents chemins et qui se présentaient comme des espaces d'hospitalité. Pas. En tout cas, c'était un petit peu l'enjeu, quoi, pour nous.
Vous aviez en quelque sorte un regard neuf pour découvrir un peu ces cheminements. Est-ce que vous aviez justement peut-être avant de procéder à cette performance, ou du moins ces interventions ou ces créations, est-ce que vous avez arpenté le territoire, ou alors vous êtes arrivé vierge?
Alors moi, j'ai eu le plaisir d'habiter pendant de longues années le petit village de Perru, qui est juste au pied du parc du Vercors, hein, au pied du col des Limouches.
Peut-être maintenant.
Ah, peut-être maintenant, alors. Pas à l'époque, en tout cas, alors que différentes communes de la Raille, comme Combeauvin, est dans le parc depuis des années, mais Pérou n'y était pas jusqu'à présent. Alors, mais je ne connais pas la nouvelle configuration parce que je viens de déménager l'été dernier. Je connaissais déjà le Vercors et du fait d'habiter là aussi, du fait d'avoir commencé, je connaissais un petit peu de résidence de vacances, etc. Je connaissais un petit peu tous les parcs à différents degrés. Ce qui n'était pas du tout le cas de Marianne qui, elle, avait un regard totalement neuf. Par contre, on a aussi pris au sérieux notre mission, entre guillemets, en nous documentant, en essayant de compulser un petit peu tout ce qui avait été créé lors des précédentes recherches-créations, lors des précédentes résidences. Donc, on a contacté des artistes et les chercheurs. On a pris tous les documents qu'ils avaient pu réaliser, qui étaient très différents d'une résidence sur l'autre. Parfois, on avait un rapport scientifique, alors que la demande était plutôt du côté d'une recherche-création, mais il y avait aussi un rapport scientifique. Il y avait des livres, des blogs, différents types de blogs, une création musicale. Il y a eu différentes restitutions très diverses. Et donc, nous, on s'est un peu imprégné de tout ça. Ce dont on a moins pu s'imprégner, c'est la dimension de participation aussi, qui était centrale dans ces résidences-là. Participation auprès des publics locaux, que sont beaucoup les écoles, mais pas seulement. Donc ça, c'est des expériences plutôt uniques qui ont eu lieu à un moment donné et qui ont été un peu documentées par des photos. Mais là, on a moins pu s'imprégner de cette dimension-là. On s'est plutôt imprégné des différents résultats, en quelque sorte, qui avaient pu être réalisés par les différentes résidences.
Allez, poursuivons donc avec le principe de ces résidences. Et puis, on a demandé à Alexandre Vernin, qui est coordinateur administrateur sur les trois parcs pour ses missions et qui s'est plié à l'exercice d'être didactique. C'est pas évident puisque c'est beaucoup d'éléments entourent ces projets. Donc, nous allons écouter ses explications. Effectivement, il nous détaille de manière très précise tout ce qui a été effectivement un fil conducteur depuis 2019.
Que depuis maintenant une dizaine d'années, une convention lie la Fédération nationale des parcs naturels régionaux et le ministère de la Culture. Et cette convention se décline soit par des opérations ponctuelles dans certains parcs qui lient donc les parcs et les administrations du ministère de la Culture, à commencer par les DRAC. Donc ça peut être des coopérations ponctuelles, soit à l'échelle de régions, on a des programmes cohérents qui se mettent en œuvre. Et c'est ce qui s'est passé en Auvergne-Rhône-Alpes. Au début de la deuxième convention, donc vers 2017, on a commencé avec l'association des parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes et puis après d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle l'APARA. Et puis la DRAC a discuté de la mise en œuvre de cette convention dans la région et donc a commencé par la personne interlocutrice à la région, à la DRAC, est encore Marina Choliac, donc qui est conseillère ethno, et en fait avec elle, on a commencé à voir ce qui se faisait dans les différents parcs d'Auvergne-Rhône-Alpes, et on a un intérêt, le souhait de travailler ensemble, et sur la mise en œuvre de résidences, mais de résidences un peu particulières, de résidences de ce qu'elle appelle aussi de recherche-création. Alors la recherche-création, en fait, les résidences, on a traditionnellement des résidences de création. Donc un artiste vient sur un territoire et il crée. Bon, parfois il y a des actions de médiation avec la population, mais il est vraiment là pour créer. On peut penser par exemple à de l'écriture. Voilà, essentiellement, ce sont des résidences de création, ce sont souvent des résidences d'écriture. On a aussi des résidences d'action culturelle. L'action culturelle, donc là, l'artiste vient sur le territoire. Et il mène des ateliers avec la population. L'idée, là, c'est de partager un acte créatif entre un artiste et une population. Ces résidences d'action culturelle qui se sont développées, là, depuis 2015, de façon assez forte. Et donc, avec Marina, on a pensé à une autre forme de résidence qui associe la dimension créative, la dimension action culturelle, et puis une autre dimension qui est celle de la recherche en sciences sociales. Marina, en fait, est donc conseillère en ethno, et donc elle avait la possibilité d'accompagner, de financer une résidence de recherche en sciences sociales. On a conçu donc ce modèle d'une résidence qui se déroulait sur 4 mois, 1 mois d'immersion, et puis 3 fois 1 mois dans chaque territoire de parc, qui associe donc un chercheur en sciences sociales et un artiste. On a fait des consultations, des appels à candidature, et on s'était associé à trois parcs chaque fois. Donc il y a eu deux associations, on va dire, le parc des Bauges, le massif des Bauges, le parc du Vercors et le parc des Baronnies Provençales. Et puis une autre année aussi, il y a eu le parc du Pilat, le parc des Monts d'Ardèche et le parc de la Chartreuse. Voilà. Donc on a été six parcs à participer à ces actions. On a défini une thématique commune qui était celle du cheminement, des nouvelles formes de cheminement, des nouvelles formes d'itinérance. Et on a fait un appel à candidature. Généralement, on a obtenu entre 20 et une vingtaine de candidatures de qualité en tout cas, variable. Et après audition, on a choisi donc des équipes, un chercheur et un artiste. Donc dans nos parcs, hein, donc il y a eu deux expériences plus une. En fait, ça fait quatre résidences entre 2019 et 2023, on va dire. Donc première résidence s'est déroulée en 2019 avec un éditeur, photographe, écrivain, Dimitri Vazemski, et une géographe, Chiara Kirchner. Elle s'est déroulée notamment dans le Vercors autour de Combaval et chez nous dans le secteur de Vesque, du côté d'Ulfi et dans les Bauges. En 2020, c'était les parcs des Monts d'Ardèche, du Pilat et de la Chartreuse qui ont accueilli une musicienne, compositrice et une anthropologue. Et en 2021, à nouveau, le parc du Vercors, le parc des Baronnies Provençales et le parc du Massif des Bauges ont accueilli donc un danseur, Franck Micheletti, et une anthropologue, Chiara Pierrien. Cette résidence-là donc s'est déroulée en 2021. Elle a eu une suite d'une résidence de création musicale avec Franck, Chiara et puis deux musiciens. Maria Rossi alias Kuchina Povera qui est une musicienne finlandaise et puis Emmanuel Rousseau qui est un musicien qui habite le Vercors. Et puis on a une quatrième résidence qui était plus globale à l'échelle des six parcs qui était une résidence bilan. L'idée c'est qu'on voulait pas faire un rapport classique de bilan et donc c'est Anthony Péqueux et Marianne Villière qui en 2022 et 2023 ont fait une résidence de recherche-création autour de la question du son, la collecte de son, et c'est aussi cette résidence-là qui donne lieu à cette série de podcasts et d'émissions et de plateaux radio. Voilà. En fait, ces résidences de recherche-création, donc, elles visaient à travailler sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui se déplacer dans son univers du quotidien, dans un univers aussi, dans un territoire naturel, hein, voilà. Par exemple, sur Combe-Laval, ça a été la découverte de ce territoire-là, une recherche un peu aussi historique sur les parcours et les usages de Combe-Laval en lien avec les villages qui étaient en contrebas. Et dans les Bauges, c'était également le cas, en fait, les passages du quotidien. Donc, en fait, c'était comment on retourne sur le passé des pratiques, alors parfois plus ou moins anciennes. Et puis on va les réactiver et comment ça se passe, voilà, et comment que peut nous dire des géographes et là en l'occurrence un écrivain là-dessus. Et Franck et Chiara Piaille, donc là l'idée c'était Franck est danseur et donc son enjeu c'était comment on va un peu revisiter des sentiers qui existent par le biais de la danse. Du corps, de la mise en mouvement du corps dans des espaces naturels et ce que ça donne pour les gens qui le font et pour les gens qui le regardent également. Voilà, donc c'était vraiment une approche vraiment très particulière, deux approches différentes. Il y avait déjà une dimension de nouveauté et nouveauté encore accrue par le fait de travailler en lien avec un chercheur en sciences sociales. Alors, ça a donné des choses variables. Parfois, il faut le reconnaître, hein, ça n'a pas toujours été simple. Les gens ne se connaissaient pas obligatoirement longtemps avant la résidence. Il y a des territoires qui se sont saisis de façon différente de ces résidences. Par exemple, nous, dans les Baronnies, nos enjeux, c'était vraiment d'intervenir sur des résidences avec des artistes et des géographes dans des secteurs où on intervenait peu. Pour le Vercors, ben, peut-être que Jamila pourra en parler, mais vraiment l'enjeu, il était vraiment de réfléchir et de valoriser un certain nombre d'itinéraires ou d'accompagner aussi des opérations soit d'aménagement, soit d'ouverture au public de certains sentiers, etc.